Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Vingt-huitième émission de Feuilles Vives, ça y est, c'est l'été et les événements festifs remplissent les agendas des habitants du Blésois. Le 17 juin dernier, c'est à Chailles que Feuilles Vives emmenait son micro à l'occasion de la fête de la Chênaie. Petit festival d'un après-midi durant lequel la clinique psychiatrique de la Chênaie ouvre son parc au public où s'enchaînent concerts, spectacles et autres animations plus modestes. En plus de ce rendez-vous annuel, c'est une véritable saison culturelle qui est proposée par la clinique, ou plutôt par l'une des associations qu'elle abrite, le célèbre club de la Chênaie et sa superbe salle de concert, le Boissier, co-dirigée par le personnel soignant et les pensionnaires soignés. Ce rejet d'une relation standardisée entre médecin et patient est l'une des caractéristiques principales de la psychothérapie institutionnelle. Le sud de l'agglomération blésoise est ainsi encerclé de cliniques se réclamant de ce courant psychiatrique. La Borde à Courchevernie, Sommerie à Huisseau-sur-Cosson, la Chênaie à Chailles. Ces établissements proposent une organisation originale qui perturbe nos repères en termes de traitement des troubles psychiques, mais aussi en termes de division du travail ou de processus décisionnel. Rupture entre ville et campagne, écart entre riches et pauvres, crispation identitaire et consommation à l'américaine, notre société bipolaire ne pourrait-elle pas bénéficier d'un petit séjour à la Chênaie ? Du fonctionnement du club et de son intérêt thérapeutique avec Raphaël, l'un de ses membres actifs, et Salomé, son ancienne secrétaire générale.
Le club, là justement, c'est là que je parle d'espace citoyen, parce que là tout d'un coup on donne la parole, on peut proposer des choses, des idées, on peut être acteur parce qu'au départ on donne un petit peu d'argent pour avoir une carte du club. Donc ça commence tout simplement par ça. Et puis après, du coup, par exemple, là, on est à la fête de la Chênaie. Donc par exemple, si on a envie d'aider déjà la mise en place de cette fête, si on veut porter des chaises, on porte des chaises. Après, si on veut créer un atelier à cette fête, on peut le faire aussi. Donc tout le monde un peu à sa place, quoi, à divers degrés de capacité.
On se prend en charge, c'est-à-dire que il faut savoir qu'on n'est pas responsable quand on est patient, on n'est pas responsable de sa maladie, mais on est responsable de ses soins. C'est-à-dire qu'on se prend en charge, bien sûr, le médecin évidemment est très présent, il y a les moniteurs, les soignants donc, qui nous soignent, etc. Mais on est citoyen à la clinique de la Chênaie, donc on se prend en charge, on prend en charge nos soins et... En tant que citoyenne, j'ai voulu m'investir au club de la Chênaie, c'est-à-dire pour aider, prendre part, participer au projet concernant la clinique et le club. C'est-à-dire qu'on est actif et en même temps, c'est thérapeutique, en même temps, on se soigne. Quand il y a un concert, il y a une interface entre les personnes de l'extérieur et les patients. C'est-à-dire que comme ce sont des concerts qui sont ouverts à tout le monde, c'est comme une vraie salle de concert. Du coup, il y a une rencontre entre les pensionnaires qui sont sur place et les personnes qui sont à l'extérieur et qui viennent de l'extérieur. Et là, alors on parle avec les gens, on sait plus. Donc on oublie finalement qu'on est patient et c'est formidable, quoi. Enfin, c'est...
Il y a un BE, quoi, un bureau exécutif du club, donc c'est une assemblée, hein, c'est comme une petite agora, quoi, et tout le monde est convié, soignant, soigné. Et donc là, on parle de toutes les activités qui ont lieu au sein de cette clinique via le club. Et tout le monde a la parole.
D'accord.
Et donc, c'est les activités extérieures et les activités au sein de la clinique. Alors, ça, c'est du sport, c'est de la musique, c'est des sorties, c'est aller avoir envie d'aller au cinéma et manger au McDo après, c'est aller voir un concert au Château d'Eau. Il faut que ça intéresse. De toute façon, c'est toujours une sorte de vie en groupe, quoi. Donc, il faut que le groupe, de manière générale, soit un peu intéressé. Après, justement, le, club, ça, j'ai tendance à penser, même si c'est qu'un fonctionnement de groupe, ça n'empêche pas non plus les individualités de se créer quand même. Donc les individus d'exister. Tout simplement une sortie, tiens, on a envie d'aller au ciné, au Lobbies, il faut donc des accompagnements, donc il faut des soignants, et il faut qu'ils soient intéressés à faire cette sortie. Et puis après, c'est tout simplement, on crée une affiche, et puis s'il y a des gens qui sont intéressés, boum.
Au bout du parc de la Chênaie, je rejoins le chapiteau de la compagnie ECA en résidence à la clinique jusqu'à la fin du mois de juin. Soignants et soignés ont profité de cette résidence pour participer à des ateliers de cirque thérapeutique. Cet après-midi, la compagnie présente son dernier spectacle, une adaptation de Don Quichotte, où l'ingénieuse Hidalgo voit ses relations avec les autres personnages se déformer au fil de l'évolution de sa psychose.
Insupportable monde, sans métro, tu es tombé trop bas. Je t'ai suivi, non pour la gloire, je t'ai suivi pour l'espoir de faire convance, de me remplir la panse. Et moi, je suis Sancho, 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 son ami, son fils, son frère. Sancho, son seul amigo, son seul suivant, pour toujours j'en suis fier.
Et moi, Don Quichotte, chevalier de grand chemin, de la chaleur de la sue, à la lumière de la piste, dérivant de château en chapiteau en clinique, le vent de l'histoire chantera pour moi. D'ailleurs,
qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle m'aime.
Je m'appelle Johan Hélin et je m'occupe du Cirque ECA, qui est un cirque qui est implanté sur la Chênaie là, jusqu'au 30 juin. On est, nous, originaires de Chinon, et nous sommes venus jouer notre nouvelle création qui s'appelle Don Quichotte, qui est un mélange de théâtre et de cirque. On associe le milieu du soin et le milieu du spectacle, étant un peu du coup sur une double étiquette. Je suis psychologue clinicien et artiste de cirque, et donc les deux combinés, ça a permis de créer cette structure soins-spectacle qui permet l'accueil de différents publics, allant public accueilli en psychiatrie adulte, mais aussi des adolescents, des enfants qui sont soit déjà dans le réseau soins, soit où on se situe plutôt dans le secteur de la prévention. Avec le cirque, ce qui est très intéressant, c'est tout le travail en effet sur les limites corporelles. On a l'avantage de pouvoir vraiment travailler sur les enveloppes d'une manière assez simple, puisque tout ce qui met en lien la suspension, la question de l'aérien, la question de la portance, donc ça c'est tout ce qui va être lié au trapèze, au tissu aérien. On va avoir des longes de sécurité, donc on va vraiment pouvoir travailler la question des hauteurs. On peut faire tout ce qui est changement aussi dans l'espace, donc les repères spatiaux sont aussi totalement transformés. Donc on va forcément perturber en fait la personne quand on va la mettre sur, dans des situations qu'elle n'a pas encore forcément vécues. Donc après, voilà, les jeux d'équilibre, hein, boule de cirque, c'est une notion de deux déséquilibres. Pour rester en équilibre, il faut être sur deux déséquilibres. Alors rien que ça, c'est tout bête, mais du coup, ça appréhende aussi la notion de stabilité un peu différemment. Il faut être déséquilibré pour pouvoir tenir. Ah bon, ah ben, on disait qu'il fallait être stable. Ah ben oui, mais pour être stable, il faut que tu sois déséquilibré, sauf deux que fois. Tu... Deux fois. Deux fois plus. Voilà. Alors du coup, la boule de cirque, on voit bien ça. Le fil, bah, on marche sur un câble, on doit se tenir droit. Donc toutes les personnes qui ont des difficultés de posture corporelle, ça va permettre directement, par une contrainte de réalité, de forcément les mettre sur un point de verticalité. Les personnes qui, du coup, sur le fil, ont du mal, elles sont totalement fermées au niveau de leur regard, bah, par cette contrainte aussi du fil, les amener à lever le visage, forcément regarder devant elles, parce qu'il va falloir, du coup, aller de l'avant. Sur tout ce qui est jonglerie, bah, ça va être aussi le côté de l'échec qui va être travaillé, parce que la jonglerie, on s'y met, ça tombe hein, tout le temps, donc il faut quand même supporter à chaque fois qu'il y a comme ça une rupture de rythme, et puis que ça ne tient pas, et puis que ça tombe, et qu'on reprend. C'est parce qu'en effet, on est délimité dans notre action, et que justement, c'est très précis au niveau des limites, qu'on va travailler sur les limites de son propre corps, qu'on va réussir à redéfinir, du coup, les limites corporelles, les enveloppes, et à partir de là, en fait, on va avoir une action indirecte ou directe sur les limites psychiques. Et à partir du moment où les limites psychiques se redéfinissent, ou quand elles sont éparpillées, morcelées, éclatées, et qu'on arrive à un moment donné à les redélimiter, forcément, la question de l'angoisse qui vient s'ajouter là-dessus, ces angoisses massives, ces envahissements psychiques, se limite aussi. Et à partir de là, on va pouvoir du coup rétablir un lien à l'autre qui n'était plus possible dans l'envahissement des pensées, parce que dès qu'on est envahi, on bloque tout, on essaye vraiment de se protéger, on se réfugie quelque part. Donc là, on va permettre du coup de sortir un peu de cette position de refuge, de réouvrir la personne et d'avoir un peu une sphère en fait pendant le temps du groupe cirque pour essayer de faire avancer quelques petites choses au niveau de la thérapeutique. Oui.
C'est pas un cocon, mais la chaînette c'est quand même... on se sent très en sécurité ici, quoi, parce que beaucoup de gens qui s'occupent de nous et c'est formidable parce qu'on est vraiment, chacun est considéré comme vraiment un individu avec ses problèmes complexes, etc. Enfin, c'est, en même temps, on est libre parce que c'est quand même un lieu. Et ça, c'est quand même exceptionnel, ouvert, une clinique psychiatrique sans l'enfermement. C'est-à-dire qu'on est, on est libre, quoi. Enfin, vous avez vu, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de porte fermée à clé, il n'y a pas de... Alors évidemment, on prévient quand on va à Intermarché ou quand on est à temps plein, par exemple, et qu'on va à Intermarché, on doit prévenir. Il y a un service de surveillance où un moniteur va voir... On met sur une fiche si les patients sont bien présents, ils font le tour de la clinique. Ça s'appelle le service V. Et donc voilà. Mais c'est très ouvert. Enfin, regardez, on est complètement dans la campagne. Enfin, on peut aller se balader dans Chaï. Enfin bon. Voilà quoi. Et puis en hôpital de jour, on nous fait entièrement confiance. Moi, je suis complètement libre à Blois. Enfin, je vais voir mes parents, je vais voir mon frère et ma belle-sœur, je vais voir mes neveux et nièces, enfin, à Paris.
Et comment est-ce qu'on conjugue un peu cette protection et ce suivi, ouais, et cette liberté et cette ouverture de l'autre côté?
C'est pas plus mal parce que quand on est malade, entre guillemets, quoi, quand on est souffrant, quand on est en souffrance psychique, je vais dire. Ouais. C'est bien d'être cadré. On a besoin d'être cadré quand même. Et donc, avec ce cadre, je gère ma liberté, quoi. Je gère ma liberté à l'extérieur. Parce que la liberté, c'est pas non plus faire n'importe quoi. Hein. La liberté, c'est assumer aussi ce qu'on a à faire. Il y a des contraintes dans la liberté aussi. Et voilà, responsabilité.
Et comment est-ce qu'à un moment vous avez
l'autonomie, j'ai retrouvé mon autonomie aussi. Je voulais le dire, ça, j'ai oublié.
Okay. À un moment, comment est-ce qu'on arbitre entre ce côté cadré, on se dit ah non, là le cadre est trop lâche, ça va pas.
Et là, ah oui, ah non, là, oh, bah, alors, à ce moment-là, moi, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est on en parle à son médecin. Ou alors, on peut même venir avec un moniteur, accompagné d'un moniteur, pour voir son médecin, si on a besoin d'une aide encore plus soutenue. Et comme ça, le moniteur du secteur, est, par exemple, de l'hôpital de jour, il y a plusieurs moniteurs. Comme ça, le médecin, on est à trois, et donc le moniteur donne son avis au patient, au médecin, le médecin, moi je parle avec le moniteur, le médecin, et donc on prend une décision, et voilà quoi, et là il y a...
D'accord, et on n'a pas l'impression dans ce cas-là que finalement le médecin et le moniteur, c'est la même institution?
Non. Pourquoi pas? Si, en général ils sont d'accord, mais comment dire, on a besoin, enfin, c'est important de parler à l'équipe quoi, parce que on n'est pas en binôme avec le médecin, la chaîne, c'est l'équipe des moniteurs, enfin c'est, il y a des moniteurs, enfin c'est, et des monitrices, enfin c'est une équipe, c'est toute une équipe en fait, c'est un travail commun, hein. C'est vraiment une constellation, je dirais.
Il n'y a pas une énorme séparation entre les soignants et les soignés, par un biais qui est extraordinaire, c'est qu'il y a tous les professionnels vont faire toutes les tâches.
Jean Clément, psychologue et moniteur au club, et Will De Graaf, qui a travaillé à la clinique pendant 35 ans.
C'est-à-dire que ce soit la cuisine, la salle à manger, le ménage, mais tout ce qui se fait dans un lieu de vie est fait par tout le monde, patient avec soignant. Jean Clément, qui est en ce moment au Boissier, enfin au club, il a été à la cuisine, il a peut-être été au ménage, il a été... Voilà.
D'accord.
Tout le monde fait ça. Ouais. Tous les 4 mois, il y a un changement de fonction. Et ça, c'est énorme, parce que ça change tout. Pas de blouse blanche, on peut se retrouver avec quelqu'un, faire une tâche parce qu'il a pris un contrat avec vous au ménage, par exemple, pendant un temps. Et un peu plus tard, vous allez le retrouver au club, à une réunion. Après, vous allez le retrouver. Et ça n'empêchera pas d'être très malade. Hein. Les gens d'ici, ils ne viennent pas du tout pour leur corps au pied. Ils sont vraiment très, 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 très malades. C'est pas une clinique, je sais pas comment dire ça moi, c'est vraiment une clinique qui traite des maladies graves, mais il y a cette vie quotidienne où on est des humains ensemble.
D'accord. Oui. Et donc c'est le fait de passer d'une fonction à l'autre qui fait qu'on n'est pas réduit à une fonction, à un spécialiste de cette tâche.
C'est une façon d'éviter ces pyramides avec les chefs en haut, puis jusqu'à ce magma que seraient les soignants, c'est tout le contraire.
Oui, puis ça multiplie les relations. Alors c'est peut-être technique, mais transférentielle, c'est-à-dire qu'au lieu de connaître une seule personne à qui on s'adresse, ça va être un nombre infini de personnes qu'on va croiser, parce qu'il y a une centaine de stagiaires qui passent par an. Il y a beaucoup de turnover de jeunes professionnels qui viennent. Il y a beaucoup de pensionnaires aujourd'hui qui viennent et qui repartent. C'est l'hôpital le jour qui vient et qui repart chaque jour. Et ça permet aussi de se sédimenter. Tu vois, ça, c'est hyper important dans un lieu. Quoi. Et même dans les relations. Comme ça, au moins, il y a un moment donné, ça se rééveille. Quoi. Il y a une nouvelle éclosion comme ça
de possible,
de potentiel. Ouais. Ça, c'est crucial.
Tout ça, c'est ça l'outil, c'est ça qui a été conçu, enfin conceptualisé, qui est vraiment le fondement. C'est pas comme ça, ah, c'est merveilleux, on est tous des copains, c'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est pas facile à maintenir, parce que si vous avez le système de la chaîne sans le changement de fonction, très rapidement vous avez les gens qui sont dans telle fonction, ceux-là qui sont top, et on sort de cette énergie qu'apporte le fait que les personnes changent. Voilà, il y a une espèce de jeu de rôle qui permet que ça soit vivant.
Puis du coup, on ne s'adresse pas du tout à la même personne. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets en place une scène. Tu parles à la personne comme quelqu'un qui va être potentiellement sur 2 heures un technicien d'une scène. Du coup, la question de la maladie, là, vient s'effacer et le rapport devient tout autre. On n'est plus dans une relation de soignant-soigné, de quelqu'un qui saurait quelque chose autour du soin, l'autre qui n'en saurait rien et qui devrait gober tout ce qu'on lui raconte. Là, on est potentiellement dans des rencontres où l'autre va nous enseigner quelque chose. Voilà. Ça, c'est crucial, en fait. C'est récupérer un peu de là, on parlait de potentiel ou de possible. Ben c'est là, c'est sur des détails en fait, hein, c'est vraiment minime.
Et puis c'est aussi un peu artificiel quelquefois. Il y a des patients, c'est bien, qui sont trop partis dans leur délire. Ils vont arriver, ils vont faire des propositions absolument mirobolantes et ils réalisent. Donc on sait que ça peut arriver, ça, évidemment. Mais ça fait partie aussi des choses qu'on a à traiter. Ben oui, c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on va lui demander de se taire. On va essayer de voir à travers tout ça ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut répondre, comment on va pouvoir créer un lien avec cette personne qui, malgré le fait qu'elle soit complètement barrée dans un autre monde, est quand même venue jusque-là, fait la démarche de monter les escaliers jusqu'à la salle de réunion, et on va essayer de trouver quelque chose pour l'inviter à être en lien avec nous. C'est aussi ça beaucoup. Hein. Ça paraît idéal, sinon, ce que je raconte. Alors ça l'est pas. Il peut y avoir des réunions où les patients sont tellement hors de la réalité que c'est évident que ce sont les soignants qui vont après récupérer les choses pour pouvoir aller au bout d'un projet. C'est ça aussi.
Oui, de toute façon, on a toujours des règles idéales pour un fonctionnement qui ne l'est jamais entièrement.
Voilà, c'est ça.
Sinon, on n'aurait pas besoin des règles.
Et pourquoi est-ce que c'est important comme ça d'impliquer aussi bien les soignants que les soignés dans ces prises de décision et dans cette organisation?
J'ai du mal à répondre à cette question là tout d'un coup. Non mais on va y arriver. Il n'y a pas de blouse blanche, quoi. Donc c'est un peu mettre tout le monde sur le même terrain d'égalité, même si quand on est soigné, on reste avant tout quand même. On est avant tout là pour soigner, donc l'égalité dans. Mais c'est un peu ça quand même. Enfin, tout le monde participe, tu vois, ici à la clinique, les soignants et les soignés participent au rôle de à toutes les tâches de la collectivité, la salle à manger, la cuisine, le ménage, les poubelles, tout le monde participe, tout le monde se mélange. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de blouse blanche. Bah, peut-être que ça aide un peu à sortir la tête de l'eau et de reprendre un peu goût à l'investissement. Dans la vie, quoi. Et après, en espérant que ça génère des envies de construction. C'est compliqué là tout ça, là j'ai du... C'est compliqué tout ça parce que je parle de moi, je parle de tout le monde, je parle des autres, parce que quand tu me poses des questions là, je peux te parler tout court de moi, mais je pense aussi à plein d'autres. Donc c'est difficile à répondre tout de suite là à cette question, j'arrive pas trop là. Mais tu vois, là, c'est paisible, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. C'est quand même, c'est avant tout un endroit de soins, mais on peut s'y sentir très bien. On peut s'y sentir très bien, de par l'interaction continuelle avec à peu près 120 personnes, entre pensionnaires et soignants. Il y a des pensionnaires, on vient d'en parler, qui peuvent juste être dans leur chambre et espérer aller mieux et autrement s'activer dans plein de d'ateliers ou tâches diverses. Mais il y a donc après, il y a les soignants, et donc là c'est des infirmiers, c'est des éducs, des psychologues, les soignants, j'ai dit, hein, voilà, et puis des médecins, quoi. Donc ça fait quand même une sacrée population à rencontrer tous les jours. Donc voilà, et puis c'est beau ici. C'est sacrément beau, sacrément chouette. On n'est pas loin de Blois, on est à 10 minutes. Et on a une salle de concert, voilà, on a un restaurant associatif, le Train Vert, le Boissier, donc. Une grosse histoire derrière, ouais, une crèche. Une grosse histoire liée donc à cette psychothérapie institutionnelle depuis longtemps. Une histoire par rapport au lieu, le fait d'être dans un château, et puis voilà, donc il n'y a pas de mur. N'importe qui peut aller et venir à sa guise. Donc bon, voilà, on peut. De toute façon, c'est beaucoup plus facile de le vivre que d'en parler. Faut pas non plus tout dire. Mais voilà.
Réduire les individus à une fonction ou un statut qu'on leur attribue, c'est appauvrir la relation qu'ils peuvent nouer entre eux. Un médecin et un patient, un caissier et un client, un manager et un standardiste, un gardien et son prisonnier ne peuvent interagir que selon une sorte de répertoire qui est prédéterminé par la fonction qu'ils occupent dans un champ donné. L'hôpital, le magasin, l'entreprise, la prison. Or, ce sont ces interactions sociales qui constituent la personne telle qu'elle se conçoit et telle qu'elle est reconnue par autrui. Si sa fonction ou son statut reste fixe au fil du temps et des changements de contexte, sa relation à autrui et le rapport de force qu'elle induit le sont également. Sa personnalité même devient prisonnière d'un rôle social qu'elle ne considère pas comme sien. La psychiatrie institutionnelle considère que ce phénomène d'aliénation, au sens marxiste et même au sens psychique du terme, est le produit de cette contrainte sourde d'autant plus pesante qu'elle est considérée comme normale et donc difficile à remettre en question. Soigner des troubles mentaux, c'est avant tout prendre soin d'empêcher ces relations aliénantes de s'instaurer et donc de permettre à chacun, en multipliant les interactions et les modes d'interaction possibles, de constituer leur personnalité comme ils l'entendent. C'est le sens de cette relation dynamique entre soignant et soigné qui dépasse le répertoire de la relation entre médecin et patient. Soigner les malades, c'est soigner l'hôpital, pour paraphraser le psychiatre Jean Houry que l'on entend ici dans l'émission Le Point du 7e jour sur France Culture, le 21 avril 1974.
Oh, ce que on veut démontrer par là, quand vous parlez d'agité et de furieux, c'est que la psychothérapie institutionnelle, qui date justement de cette époque-là, a essayé de montrer dans les faits que l'agitation, le gâtisme ou la fureur, etc., quoi, sont des tableaux morbides qui sont souvent provoqués inconsciemment par les dispositions aussi bien architecturales que les préjugés du personnel et la façon d'aborder, disons, ce genre de personnes que sont les malades mentaux.
Et si ce qui est vrai pour les agités et les furieux dans un hôpital psychiatrique l'était aussi pour nos assistés, nos racailles, nos zadistes, nos fachos ou nos djihadistes ? Si ces comportements marginaux, déviants, choquants, violents n'étaient en fait que le produit du fonctionnement normal de notre société. La stigmatisation des minorités, le racisme, la misogynie, l'appauvrissement de la relation ville-campagne ne sont pas de simples défauts à corriger, mais le produit même des différents éléments de notre organisation sociale que sont division du travail, mode d'habitat, répartition des richesses, moyens de transport, diffusion de l'information, système politique, etc. Comme la psychothérapie institutionnelle a révolutionné l'architecture et l'organisation de l'hôpital psychiatrique, c'est en bouleversant nos manières mêmes d'habiter, de produire, de se déplacer, de consommer, de travailler, de se divertir, de s'informer, bref, d'interagir avec autrui, que nous construirons une société respectueuse de son environnement et des minorités qui la constituent. On termine avec un extrait de Michel Foucault, « Les anormaux », cours du 15 janvier 1975. L'exclusion de la lèpre, c'était une pratique sociale qui comportait d'abord un partage rigoureux, une mise à distance, une règle de non-contact entre un individu ou un groupe d'individus et un autre. C'était d'autre part le rejet de ces individus dans un monde extérieur, confus, au-delà des murs de la ville, au-delà des limites de la communauté. Constitution par conséquent de deux masses étrangères, l'une à l'autre. Enfin, troisièmement, cette exclusion du lépreux impliquait la disqualification, peut-être pas exactement morale, mais en tout cas juridique et politique, des individus ainsi exclus et chassés. C'était en effet des pratiques d'exclusion, des pratiques de rejet, des pratiques de marginalisation, comme nous dirions maintenant. Or, c'est sous cette forme-là qu'on décrit, et je crois encore actuellement, la manière dont le pouvoir s'exerce sur les fous, sur les malades, sur les criminels, sur les déviants, sur les enfants, sur les pauvres. Fin de citation. Et c'est la fin de cette 28e Feuille Vive. À noter dans vos agendas, l'équipe de l'émission sera présente l'après-midi du samedi 25 août à l'occasion de la première journée du festival Vienne en goguette avec le collectif des métairies du pont Saint-Michel. Plus d'infos dans la rubrique Feuille Vive du site studiosf.fr. A bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mélie, viens donc voir, je croyais en main que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait...